Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Dr Marois Pagé, qui est en fait une médecin de famille. Mais elle travaille à la fois dans une clinique ici à Saint-Henri, mais également à l'hôpital Villa Medica, qui est un hôpital d'un centre de réadaptation en fait pour les grands brûlés.
Ouais, puis c'était vraiment intéressant d'en apprendre un peu sur cette population-là des grands brûlés, puis de voir comment un médecin de famille peut avoir cette pratique-là. Puis Dr Marois Pagé était vraiment éloquente, là, était vraiment une invitée super à recevoir, donc... Bon épisode, puis n'oubliez pas de déjeuner le matin.
L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finance. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement de les contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 de bourses. 100 000 $ de bourse. 100 000 $ de bourse, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous.
Oui, exact. Ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top-notch. Là, avec Archer, je parle d'expérience là, avec eux. Ils sont faciles d'approche. Tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis c'est vraiment une courte rencontre. Là. Ça peut être prendre juste 20 minutes. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecin puis qui offre des services totalement gratuits aux étudiants. Donc, allez voir ça. Docteur Marois Pagé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir.
Donc, pour commencer, on veut en apprendre un peu sur votre parcours. Qu'avez-vous toujours su que la médecine, c'était fait pour vous ou c'est venu un peu plus tard?
Oui, en fait, ça fait longtemps que depuis plus loin que je me rappelle que je voulais devenir médecin, j'adorais mon pédiatre. Comme moi, aller chez le pédiatre, c'était une activité comme formidable. Fait que j'allais chez mon pédiatre avec ma mère, puis t'sais, super santé, elle m'a amené au McDo après, fait que j'ai associé que genre c'était vraiment très agréable comme enfant, t'sais. Fait que j'ai toujours voulu faire ça, puis je me suis toujours bien entendue avec les autres enfants, puis quand j'étais jeune, je faisais du gardiennage, gardienne avertie comme plein d'autres jeunes de cette génération-ci, de ma génération, on n'est pas très différentes en âge. Finalement, je me suis rendu compte qu'en rentrant en médecine, finalement, la pédiatrie, ça m'intéressait moins. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus global. J'adore les enfants. J'en fais dans ma pratique comme médecin de famille. Mais je ne pouvais pas juste faire ça. Fait que oui, j'ai toujours voulu. Puis il n'y a aucun membre de ma famille qui est médecin. Mes parents n'étaient pas médecins. Je ne connais personne dans mon entourage qui était médecin. Je disais depuis que j'étais jeune que je voulais être médecin. Fait que mes parents étaient comme « OK ». J'étais un petit peu le mouton noir de la famille. Là. On peut voir ça comme ça.
Ça t'a fait un choc justement en rentrant en médecine, de ne pas avoir eu beaucoup d'exposition autre que, mettons, votre pédiatre, de ne pas avoir eu des modèles? Est-ce que vous avez quand même trouvé votre chemin rapidement?
Ben oui, mais tu sais, sûrement vous aussi, quand vous êtes rentrée, souvent les profs demandent un peu, tu sais, est-ce qu'il y en a qui ont des parents médecins dans la classe, tout ça, puis il y a beaucoup de gens qui lèvent la main. Mm-hmm. Puis la grande majorité des gens ont quelqu'un dans leur entourage rapproché qu'ils ont un médecin. Fait que moi, j'étais comme « bon, OK, ben écoute, je sais que c'est ça que je veux faire, j'ai pas besoin d'avoir une exposition antérieure. » Mais c'est sûr que t'as un peu un doute pour dire « bon, ben tu sais, t'entends parler de la qualité de vie, du fait que quand t'as des parents médecins, t'entends souvent des gens qui sont moins là souvent. » Fait que là, tu te poses un peu la question « est-ce que c'est ma place? » Parce que t'as pas vraiment vu quelqu'un de façon très rapprochée. Finalement, tu sais, ça se passe très bien, puis j'ai réussi à trouver ma voie, comme tu dis.
C'est bon. Je voulais comme pousser là-dessus, parce que c'est en plus un des buts du podcast, c'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement eu des grandes expositions, puis en entendre parler par d'autres médecins.
Comme nous, en fait, c'est ça. On n'avait pas de médecins dans notre famille ou notre entourage proche aussi. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit que pour que tout le monde puisse savoir les options un peu et découvrir ce monde-là avant. Mais moi, je me demandais, fait que là, vous êtes rentré en médecine, puis c'est quand est-ce que vous avez eu la piqûre pour la médecine familiale? Est-ce que c'était rentré plus tard ou c'était en début de médecine? Vous avez dit qu'avant pédiatre, mais ça l'a changé?
Oui, bien, dans le fond, je ne suis pas rentrée en médecine direct après le cégep. Fait que mon parcours est un petit peu différent. Fait que, bon, comme bien les gens, je n'avais pas les notes au cégep. Fait que ce que j'ai fait un bac en ergothérapie avant à l'Université de Montréal. Pourquoi j'ai choisi l'ergo? En fait, j'ai regardé un peu sur le curriculum des différents programmes qui font en sorte que si tu fais des cours de ces programmes-là, tu, dans le fond, tu as des cours de crédité rentrée en médecine. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire quelque chose, je vais faire quelque chose qui va me servir plus tard. Fait qu'il y avait physio, ergo, puis genre sciences, biomed. Puis j'ai vu dans le curriculum que ergo, c'était le programme avec le plus de stages cliniques. Mm-hmm. Fait que je me suis dit encore là, ça, c'est quelque chose qui va pouvoir m'aider pour les entrevues futures, tout ça. Fait que j'avais quand même pensé à mon affaire. Puis j'ai appliqué en ergo, j'ai adoré. Puis plus, c'est qu'en ergo, c'est pas courbé avec la code Z. Fait que dans le fond, j'avais des super bonnes notes, mais tout le monde avait des bonnes notes. Fait que c'était super. Tout le monde avait du fun, puis il n'y avait aucune compétition. Fait que c'était vraiment génial. Finalement, j'ai dû faire le bac au complet, étant donné que, bon, c'est très difficile, comme vous devez le savoir, de rentrer en médecine en cours de baccalauréat. Il y a beaucoup de place pour les cégepiens, puis il y a beaucoup de place pour les universitaires. Fait que finalement, j'ai dû faire le bac au complet, puis ça a été à refaire, je ferais la même chose. J'ai fait des stages cliniques un peu plus poussés comme de spécialité en ergo. J'ai fait un stage en plastie de la main, puis j'ai fait un stage au grand brûlé. Fait que je savais un peu que je voulais aller dans quelque chose de plus médical, parce que je savais que c'est ça que je voulais faire après. Fait que je voulais que mon exposition soit plus clinique, centrée plus sur des affaires plus pointues. Puis c'est grâce à ça, dans le fond, que j'ai... Mon parcours s'est dessiné à partir de ça, parce que mon dernier stage en ergo, en troisième année, je l'ai fait à l'hôpital de réadaptation Villa Medica, qui est un hôpital ici dans le quartier latin. Puis j'ai fait auprès des grands brûlés, la réadaptation des grands brûlés, puis j'ai adoré ça. Le médecin qui était là, il y en a un seul, puis il était comme fin soixantaine, fait que j'ai dit, écoutez, ben moi, votre job m'intéresse. Il m'a dit, rentre en médecine, puis tu viendras me voir plus tard. Parfait. Fait que je suis rentrée en médecine, puis je l'ai rappelé. Je, là, quand c'était le temps de faire les stages, j'ai fait un stage avec. Puis quand je suis devenue résidente, j'ai fait un stage avec. Puis là, j'ai pris sa job, j'ai pris sa relève, puis on a planifié ça depuis les 7 dernières années, en fait, là.
Wow!
Fait ouais, que ça s'est comme un peu... Ouais, c'est un peu particulier comme parcours, mais ça s'est un peu comme tout fait. Puis honnêtement, j'aurais jamais fait cette job-là si j'avais pas fait mon stage en ergo. Fait que tout a découlé, en fait, de ça, puis les étoiles se sont alignées. T'sais, si Dr Lassalle, mon mentor, qui est devenu mon mentor après, t'sais, il avait eu 40 ans, il m'aurait pas donné sa job. Mm-hmm. Il n'y avait pas vraiment de job pour deux dans le contexte. Fait que, tu sais, tout était parfait.
C'est quand même, ça doit être motivant d'avoir quelque chose comme un but, justement, au bout de ces nombreuses années d'études-là.
Exactement, ouais.
Fait que pour cette job-là, pour travailler avec les grands blés, la façon la plus facile à y aller, c'était en faisant votre résidence en médecine familiale.
Ouais, lui, il était médecin de famille. Fait que dans le fond, tu sais, quand t'es brûlé au Québec, c'est vraiment divisé est-ouest. Fait que dans le fond, si t'es brûlé à Québec, tu vas à Québec-Québec. Si t'es brûlé à Montréal, tu vas à Montréal au CHUM. Là, t'as tes greffes. Fait que t'as les chirurgies, puis après ça, t'as besoin de réadaptation. Des fois, il y en a qui viennent à l'hôpital même pour être hospitalisés parce que, par exemple, ils ne sont pas capables de retourner à la maison, ne sont pas sécuritaires, des choses comme ça. Fait qu'ils ont besoin de physio-ergo intensif avant de retourner. Fait que moi, je deviens leur médecin là, leur médecin de réadaptation durant leur séjour hospitalier. Mais après ça, étant donné les cicatrices, qui évoluent souvent pas très bien si on ne fait pas des traitements, on les suit en externe pendant presque un à un an et demi après. Fait que, tu sais, c'est une job, c'est une niche. Tu sais, il y en a juste un au Québec qui faisait ça, c'était Dr Léo Lassalle. Puis, dans le fond, lui, il était médecin de famille. Fait qu'il faisait moitié-moitié. Fait que je me suis un peu inspirée de sa pratique. Mm-hmm. Puis, j'ai calqué la mienne en fonction de la sienne, puisqu'il faisait moitié-moitié. Puis, son bureau à Verdun. Puis, j'étais comme, parfait. Je vais venir à Saint-Henri. C'est le fun, Saint-Henri. Fait que, tu sais, je me suis dit, je veux pas être trop proche de chez moi. Parce que, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, ça te tente pas de voir ton patient qui dit, j'ai un problème dans le dos, j'ai mal aux pieds. Fait que ça arrive très souvent. Fait que je me suis dit, je vais m'éloigner de ça. Puis après ça, ben voir un quartier nouveau, qui est un quartier Saint-Henri très intéressant parce que ça se gentrifie beaucoup avec des jeunes familles, mais il y a beaucoup de consommation, puis il y a beaucoup de santé mentale. Puis tu sais, il y a quand même des patients qui sont vulnérables. Fait que ça fait un beau mélange de vulnérabilité et de non, exact, de non-vulnérabilité. Fait que ça fait un bel équilibre de pratique. Fait que ma pratique est un peu moitié-moitié. Fait que je me tanne jamais.
Puis qu'est-ce que vous avez autant aimé à la base de la population des grands brûlés?
Ben, c'est une clientèle très vulnérable. C'est beaucoup des jeunes. La clientèle typique, c'est souvent un jeune homme, accident de travail. Fait que c'est de la CNSST. Mmh. Puis c'est beaucoup des gens qui ont une souffrance physique, mais aussi psychologique. Fait que, tu sais, il faut que tu les accompagnes dans l'événement traumatique. Ils doivent réapprendre à vivre après leur accident, après leur brûlure. Tout ce qui est image corporelle, tu sais, c'est des trucs qu'on parle pas souvent en médecine, là. Tu sais, beaucoup, on n'est pas des travailleurs sociaux, même si un peu on l'est parce qu'on manque tellement de travailleurs sociaux dans le réseau. Tu le deviens un peu en dépit. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école, là, de parler d'image corporelle, puis, tu sais, vraiment parler de sexualité, là. T'es toute brûlée, puis tu rencontres quelqu'un, comment ça va se passer? Fait que, c'est des affaires qui m'attiraient un peu pour faire une différence en tant que médecin, mais c'est pas vraiment médical. T'sais. Oui, il y en a, mais il y a beaucoup de tout le reste. Mais d'un autre côté, il y a tout l'aspect médical de la gestion de la douleur, qui est souvent très difficile à faire, la gestion justement au niveau de l'anxiété, puis il y a beaucoup les plaies. T'sais, au début, ils ont beaucoup de plaies, fait qu'il y a un peu la gestion de tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de médical, puis il y a beaucoup du non-médical. Puis en réadaptation, puis ça, c'est un milieu, bon, Là, je vous parle d'un milieu qui est très particulier avec les grands brûlés, mais tu sais, il y a plein de gens qui pourraient travailler dans votre cohorte, qui pourraient appliquer pour faire avoir des jobs comme médecin de famille en réadaptation, en URFI ou en réadapt juste général. Parce que ce qui est le fun, c'est que c'est pas le médecin qui est au centre, c'est pas le médecin la star. La star, là, c'est les ergos, les physios, les orthophonistes, les infirmières. Tu sais, comme t'es une équipe, t'as pas le choix, tu peux pas travailler en interdisciplinarité, en réadaptation, parce que ça marchera jamais. Fait que c'est vraiment cet aspect-là que je trouve très intéressant d'équipe, tu sais. Puis si l'équipe était pas là, les patients, ils pourraient pas retourner chez eux. Là, moi, je serais pas capable de faire leur job tout le monde en même temps. Impossible.
Fait que c'est une ambiance vraiment différente, là, qui travaille ensemble, puis... Ah, c'est rare, ça.
C'est aussi de voir, genre, l'ensemble de la santé de la personne.
Exactement.
Avec toutes les différentes... Justement, les différents professionnels qui y travaillent.
Puis, tu sais, d'appeler les familles, puis de savoir vraiment... Tu sais, on nous dit tellement qu'il faut que t'aies les informations pour colliger des informations autres. Tu sais, comme t'as un patient qui arrive à l'urgence, c'est une personne âgée, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Es-tu autonome? Faut que t'appelles. Tu sais, des fois, on est comme, oh, il faut que j'appelle la famille. Tu sais, des fois, ça peut être lourd. Mais plus j'avance dans ma pratique, plus je trouve que c'est des informations comme c'est de l'or, là. Genre, je passe du temps au téléphone. Fait que si vous aimez ça, passer du temps au téléphone, je vous encourage à faire de la réadaptation. Parce que c'est super le fun d'impliquer les familles. Puis ils sont tout le temps tellement motivés parce qu'ils veulent qu'il aille mieux, tu sais. Ils sont pas malades, en train de mourir aux soins intensifs. J'adore les soins intensifs, puis c'est des héros, les gens qui font ça. Mais c'est comme un autre type de... On est en train de les sauver différemment. Est-ce qu'on va être capable de monter les marches puis retourner chez lui puis être capable de se laver tout seul? Tu sais, c'est très différent. On est vraiment dans de l'autonomie, dans la fonction, dans du day-to-day. Là. On est dans ce que tu es capable de faire pour retourner chez toi. On n'est pas en train d'installer un swan-gant, pas en tout. Mm-hmm. Puis c'est bien correct, c'est vraiment pour tous les goûts. Mais si tu veux être là avec la famille, puis tu sais, comme ton ergo va faire une visite à domicile, prendre des photos, tu vois si chez les gens c'est comment, tu sais, c'est très intéressant.
Dans l'intimité un peu, puis dans justement la famille de la personne, hein, c'est bon.
Tout à fait. Puis
est-ce que vous avez trouvé votre résidence, parce que là, vous étiez quand même très orientée vers qu'est-ce que vous allez faire. Fait qu'est-ce que vous avez trouvé parfois que c'était un peu, pas du temps perdu, mais tu sais, vous auriez aimé ça pour pouvoir vous orienter plus vite? Dans la résidence, vous devez toucher à tout.
Pas vraiment. Honnêtement, la résidence, c'est un parcours. Tu sais, c'est un parcours. C'est vraiment bien fait, là. Puis vous allez voir plus tard, là, vous allez vous rappeler de ce que je vais vous dire aujourd'hui, là. Mais comme c'est tellement bien fait, au début, tu apprends comment faire l'examen physique, après l'anamnèse, après tu intègres les deux, après ça, tu fais des diagnostics différentiels, après les traitements. Mais c'est tellement bien pensé, là. Quand tu t'arrives dans ton bureau ou que tu es avec un patient, comme médecin versus comme résident, t'agis pas pareil, ton cerveau est pas pareil, puis dans 2 ans, ça évolue comme à vitesse grand V. Tu sais, quand t'es résident, tu te rappelles pas c'est qui Madame X dans telle chambre, là. Puis là, tu regardes le résident plus vieux, il s'en rappelle. Tu sais, comment il se rappelle de son nom? Puis là, moi, quand je suis patronne, je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu elle, cette patiente-là, elle allait au mariage de son petit-fils, puis là, blablabla. Puis des affaires que ton cerveau il est capable d'accumuler de l'information différemment que quand t'étais plus jeune, comme dans ton parcours, je parle. Fait que je pense que le parcours, juste pour ça, de te faire une tête, c'est nécessaire. Ça fait de nous des bien meilleurs médecins que si on ne faisait pas, par exemple, comme médecin de famille, dans le temps, ils ne faisaient pas de résidence. Je pense que ça fait de nous des meilleurs médecins plus complets, de toucher à tout. Puis si je n'avais pas trouvé cette niche-là avec les grands brûlés, j'aurais quand même dû toucher à tout pour devenir un meilleur round-up médecin.
Et vous le faites la moitié du temps aussi à Saint-Henri. Dans
exact, j'ai ma clinique, exactement. Ouais. Fait que tu sais, je fais moitié-moitié. Fait que tu sais, j'ai ma clinique, puis je vois mes patients. Fait que ça, tu sais, je fais de tout, tu sais, tant de la pédiatrie. La seule chose que je fais pas, c'est des suites de grossesse. Fait que j'ai choisi de faire de la gériatrie, de la PED, de la santé mentale, santé physique. Puis c'est souvent un melting pot de tout ça, là.
Puis justement, encore sur la résidence, là, tu sais, on s'est fait beaucoup dire par d'autres invités ici qui ont choisi de spécialiser qu'eux, ils n'auraient pas pu faire dans le fond médecine familiale, parce qu'ils trouvaient que c'était trop de choses à savoir, puis qu'ils ne se sentiraient pas équipés pour faire ça. Puis là, d'un autre côté, c'est juste 2 ans, la résidence de médecine familiale. Donc, comment que c'est possible de voir un peu autant de choses en 2 ans? Comment ça se passe, la résidence?
Mais c'est sûr que la résidence, c'est un peu difficile parce que t'es comme tout le temps en train d'utiliser ta capacité d'adaptation. Tu sais, comme l'anxiété du dimanche soir, là, quand tu t'en vas à un nouveau stage le lendemain matin, puis là, tu sais pas c'est quoi le système informatique, tu sais pas c'est un nouvel hôpital, tu sais pas c'est où les casiers, tu sais. T'es un peu tout le temps dans un niveau de stress. Puis ça a l'air vraiment banal, ce que je dis, mais à long terme, sur 2 ans, ça peut être quand même stressant. Puis ça, j'imagine, les gens qui ont fait une spécialité, c'est de même pendant 5 ans. sais, ben oui, il s'habitue, il va souvent dans les mêmes hôpitaux, à un moment donné, tu t'habitues, mais ça reste que oui, c'est beaucoup de choses en peu de temps. Fait que quand tu gradues, là, les 5 premières années, puis c'est ce que moi, les gens plus vieux, puis les gens que je côtoie, puis mes mentors m'ont dit, c'est que les 5 premières années, t'es tout le temps encore en apprentissage, j'ai tout le temps des trucs nouveaux. C'est jamais pareil. Fait que oui, souvent, je suis comme, oh my God, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça. Fait que là, je vais aller faire des recherches. Je pense que la transparence, c'est super important. Fait que je leur dis, écoutez, j'ai aucune idée. Puis oui, quand t'es jeune médecin de famille, tu réfères plus, puis tu réfères aux spécialistes. Ils sont là pour ça. Je n'ai pas la réponse, t'sais, je ne le sais pas. Je vais faire plus de tests. Puis, tu sais, si on le fait dire, puis là, après ça, ben tu build up un peu. Puis là, tu dis, ah ouais, j'ai déjà vu ce cas-là, ça me fait penser à ça, c'est un peu rare, mais bon, tu vas le savoir. Mais tu ne le sauras pas tant que tu n'en vois pas.
Puis, ça rend l'expérience que là, ça build up les connaissances un peu.
Exactement. T'sais. Mais oui, c'est peu de temps pour beaucoup de choses. Puis, ouais. C'est sûr que tu ne vas pas tout savoir. C'est probablement comme ça dans les autres spécialités. Je peux pas parler à leur place, mais tu sais, en médecine familiale, c'est sûr qu'il y a tout le temps plein d'affaires, puis c'est jamais un problème. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes en même temps. Fait que tu sais, c'est un melting pot. On a les connaissances. Des fois, les petites affaires plus précises, de trucs plus rares, ben là, tu réfères ça, mais tu es quand même bien préparé. Mais c'est sûr que tu préfères une résidence de 5 ans en médecine familiale, je pense. Tu pourrais parler pendant 6 mois de facturation parce qu'on nous en parle pas, on n'a pas le temps. Puis là, t'arrives, tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouh là là!
Dans les premiers mois, là,
oh my God, là, t'es perdu facturation. Ça, c'est un autre problème. C'est un beau problème, mais c'est un autre problème. Tu sais, t'as pas le temps de parler de ça, là, en 2 ans. Puis là, t'arrives, tes patrons, puis là, OK, il faut que tu factures. Facture quoi? Comment? Non, aucune idée. Fait que, il y a plein de particularités comme ça qui font en sorte que, oui, c'est court, mais je veux dire, à un moment donné, tu peux pas non plus faire des résidences de médecin de famille pendant 7 ans, là. Ça serait un petit peu.
Puis en étant dans un groupe de médecine de famille, il y a probablement d'autres médecins que ça fait un peu plus de temps qu'ils pratiquent, que vous pouvez aller comme les voir pour ce genre de choses-là.
Exact. Je pense qu'un des points positifs, c'est d'avoir un mentor.
Mm-hmm.
Je pense que c'est vraiment essentiel. Puis ça, c'est essentiel pour n'importe qui. Puis je pense même pendant la résidence, pendant l'externat, c'est important d'avoir quelqu'un plus vieux ou quelqu'un dans votre entourage qui peut vous conseiller. Puis un peu calmer le jeu, tu sais, parce qu'on est stressé, puis il presse le citron, des fois on n'a plus de jus, tu sais, faut que tu te gardes du jus, là, t'as encore du chemin à faire. Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un pour justement parler de ça, puis d'aller cogner aux portes, puis dire, écoute, est-ce que je panique pour rien, c'est-tu grave, puis d'avoir une autre vision, c'est vraiment un point essentiel, je pense, pour avoir une pratique saine puis équilibrée.
Mm-hmm.
Puis en parlant de pratique saine et équilibrée, c'est comment environ en médecine de famille l'équilibre vie-travail?
Bien, ce qui est intéressant, c'est que tu peux un peu choisir. T'sais, à ma clinique, je peux choisir mon horaire. Fait que ça, c'est le fun. T'sais, si tu veux prendre des journées de congé, tu peux quand même le faire quelques jours d'avance. Tu peux quand même, c'est beaucoup plus flexible. Tu choisis combien de temps tu veux prendre un rendez-vous. T'sais, moi, au début, je me donnais plus de temps, puis après ça, j'ai gaugé. Puis là, je suis vraiment à l'aise avec les quantités de minutes puis quantité de patients. Il y aura toujours des patients, il va toujours en avoir plus. Fait qu'il faut que tu saches mettre tes limites. Puis ça, c'est pas facile. J'apprends à faire ça. Ma psychologue m'aide beaucoup pour ça parce que je suis en psycho, sinon tu vas capoter. Fait que ma psy, elle m'aide beaucoup à mettre mes limites. Mais honnêtement, à l'hôpital, c'est beaucoup plus difficile de vraiment être capable de dire parce qu'il y a toujours des imprévus. Il y a beaucoup, tu sais, avec les infirmières, il peut arriver quelque chose. Fait que c'est moins encadré. En médecine familiale, dans un bureau, c'est vraiment le fun. Tu peux dire, moi, je finis à 4 heures, là. Tu finis à 4 heures, puis au pire, tu te rajoutes une urgence ou deux de plage, puis là, tu te dis peut-être qu'ils vont les remplir, peut-être qu'ils rempliront pas. Fait que c'est important, mais tu sais, j'en ai vu, là, des fois, des patients, des cliniques, je me mettais 30 patients, là, dans une journée, puis tu sais, à la fin, t'es vraiment pas bien, là. T'es fatigué, t'sais. Fait que au début, on veut en prendre beaucoup parce que là, on dit, ben là, ça fait 10 ans que je suis aux études, let's go. Allez-y, mollo, moi, c'est mon conseil. Mm-hmm. Vous pourrez vous en rappeler quand vous serez rendu là, puis au pire, là, vous en rajoutez, t'sais, pour un peu trouver c'est quoi votre équilibre. Votre équilibre ne sera pas le mien, puis vice-versa. T'sais.
Est-ce que vous avez beaucoup de sollicitations pour prendre des nouveaux patients? Tout ça, parce qu'on entend là, les longues listes de personnes sans médecin de famille. Tout ça, est-ce que c'est une réalité, une pression qu'on se fait quand même imposer un peu ou…
Tout le temps. Bien, pas imposé, dans le sens que en médecin, quand tu deviens médecin de famille, ton contrat, en fait, quand tu as ton poste, c'est que tu signes, inscris 500 patients dans la première année. Fait que ça, c'est exactement ce que tu dois faire. Fait que tout le monde doit avoir minimum 500 patients après un an de pratique. Puis après ça, tu as des forfaits supplémentaires, fait qu'ils nous encouragent avec l'argent, évidemment, pour avoir plus de patients. Si tu en as 750, si tu en as plus que 1000, puis là, après ça, je connais pas les chiffres, là. Fait que, tu sais, une fois que tu as fait ça, après ça, tu as fait ton obligation, tu peux un peu gager comme tu veux. Mais c'est sûr que toutes les gens qui voient dans mon bureau, ah, ma cousine, tu sais, fait que c'est un peu une pression comme ça. Puis vos collègues, des amis, de la famille. Puis c'est important d'être capable de dire non des fois, mais c'est pas facile au début de dire non, je suis pas à l'aise pour x, y raison, tu sais. Puis les raisons déontologiques aussi qui viennent avec tout ce qui est famille, amis. Mais tu sais, je pense qu'au début, tu veux tellement inscrire que tu vas en prendre plein. Mais des fois, c'est le fun aussi de choisir avec qui tu as une affinité. Parce que si les patients avec qui tu t'entends, ça se peut que tu t'entendes pas bien avec tous tes patients. C'est normal. Mais si c'est tout le temps de même, il faut quand même qu'on aime notre job. Ouais. On est là, un bon médecin qui est content puis qui a du plaisir, ça va donner un service qui est bien meilleur, va donner des meilleurs soins, puis le patient va être beaucoup plus content. Fait que si tu t'entends pas avec tes patients ou il y a une barrière de langue pour x, y raison ou juste que le patient est souvent en retard ou que tu sais plein de raisons qui peuvent causer que ça cause des tensions, ben après ça, ça devient difficile si c'est beaucoup, beaucoup de cette patientèle qui devient comme ça. Fait que moi, je suis rendue au point où là, j'ai mes 500, j'en ai 650, là, j'ai choisi. C'est comme, oh, ma famille, tu sais, je suis comme, OK, d'accord. Fait que tu sais, parfait, je vais vous prendre. Puis j'aime ça aussi garder les gens de Saint-Henri, fait que de regarder où est-ce qu'ils habitent aussi. Tu sais, quand ils me disent, ben moi, j'habite à Laval, je me dis, je comprends, mais c'est parce que, tu sais, j'essaie de vider mon guichet aussi. Puis souvent, ces gens-là sont inscrits sur le guichet, mais je les prends même pas via le guichet. Je les prends comme de bouche à oreille, puis j'essaie de garder les familles dans la même clinique, puis de, tu sais, de prendre le bébé avec les parents, tu sais. Puis j'ai la place pour faire ça. Fait que l'espèce de gap qui me reste, j'essaie de le garder pour essayer de faire que les familles ensemble soient là, tu sais, sœurs, frères. C'est le fun. C'est le fun pour moi, parce qu'après ça, je connais toute la famille. Puis ils me disent, tu te rappelles-tu, là, elle est allée se marier ou elle est allée en lune de miel? Je dis, oui. C'est un aspect quand même plaisant du médecin de famille.
Ouais. Puis même juste côté médical, ça doit être pratique, là, tu sais, quand il y a des maladies qui viennent dans une même famille, tu veux savoir...
Tout à fait. C'est un bon point.
Puis côté population, est-ce que c'est possible aussi de justement choisir de voir plus une population, exemple, un groupe d'âge que vous appréciez particulièrement?
Oui.
Est-ce qu'il y a des moyens de faire ça?
Tout à fait. Okay. Fait que, tu sais, quand tu vas, le guichet, ils mettent, par exemple, les patients vulnérables, non vulnérables, puis ils cotent ça dépendamment de quand le patient, il n'y a pas de médecin de famille, il appelle au guichet ou il s'inscrit en ligne, puis souvent, il parle à une infirmière, puis ils font un screening. Genre, je suis diabétique, je suis amputée d'une jambe, j'ai des problèmes cardiaques, ils montent sur la liste. Puis après ça, ben, ils mettent leur âge. Fait que, tu peux, quand toi, tu choisis comme médecin, tu peux demander que tu veux juste des patients vulnérables. Ou tu veux juste des non-vulnérables. La majorité du temps sont tellement longtemps sur la liste que les non-vulnérables deviennent vulnérables. Fait que c'est comme une boîte de Pandore, mais c'est correct. Le système est comme ça. Puis, tu peux aussi demander de prendre des enfants. Après ça, tu sais, santé mentale, santé physique, ils font pas vraiment la différence. T'sais, si les gens aiment beaucoup la santé mentale, je pense que ça, je suis pas sûre, mais je pense que c'est plus difficile à avoir comme plus spécifiquement. Mais oui, tu peux tout à fait faire un screening comme ça là, pour voir ce que tu préfères.
Okay.
Puis on entend souvent dire aussi que par rapport à la médecine de famille, une chose qui est fun, c'est que tu peux changer ta pratique puis la mouler un peu à ce que tu veux. Est-ce que c'est facile, par exemple, que si là, vous décidez de, je sais pas, faire une troisième année dans un autre domaine, de le faire, décider demain là, que vous inscrivez à ça, ça se fait-tu bien ou pas vraiment?
Bien, je pense que ce serait peut-être un peu tard. Bien, pas tard, mais je veux dire, là, j'ai mes patients, c'est qui va s'occuper de mes patients? Pendant ce temps-là, tu sais, peut-être à temps partiel, tu sais, puis si c'est comme un R2B, là, ou tu sais, comme un 3 mois, probablement que c'est faisable, tu sais, comme un congé de maternité, tu pars un an, souvent, tu sais, entre 6 et 12 mois. Fait que je pense que oui, c'est faisable, mais je pense que, tu sais, une fois que tu as ta clientèle, peut-être que je suis trop jeune, mais moi, je me verrais mal de dire, OK, ben moi, je peux plus m'occuper de tous ces patients-là, tu sais. Mais je pense que oui, tu sais, si par exemple, je décidais de faire plus... de la gynéco, puis je vais m'ouvrir une clinique de santé des femmes, puis faire de la pose de stérilet. Je suis certaine que je pourrais faire ça. Ou si je voulais faire une clinique, par exemple, de gériatrie ou de musculo-squelettique, il y a le moyen tout le temps de te faire des petites cliniques, puis de un peu t'auto-référer ou avec les gens de ta clinique, dire quand vous avez un problème, genre des douleurs lombaires, ben écoute, moi, le premier vendredi du mois, je fais une clinique musculo, let's go envoyer. Tu sais, je pense qu'il y a moyen de le faire. De retourner en formation, je suis certaine que oui, là, il y a toujours moyen de le faire, mais. C'est sûr que tu laisses derrière tes patients, puis là, tu laisses derrière tes patients que tes collègues doivent suivre.
Ouais.
Il y a toujours cette réalité-là, tu sais.
Puis, si, exemple, vous vouliez juste essayer d'aller un peu en hôpital, ça, est-ce que vous pourriez juste vous ajouter une ou deux journées milieu hospitalier par
semaine? Probablement. Je pense, tu sais, il y a beaucoup... c'est compliqué, là, les postes et tous les PREM, les PEM, les AMP. Là, je pense qu'on vous en a peut-être parlé. T'sais, un PREM, c'est pour avoir ton poste. Fait que tu as ton PREM. Par exemple, moi, mon PREM est à Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Verdun.
OK.
Après ça, tu peux avoir des AMP, qui est des activités médicales particulières. Ce que tu peux prendre justement en réadap, moi j'ai pris, ou en urgence, ou dans plein d'autres trucs. Fait que tu sais, tu as des obligations comme ça. Bon, au début, tu demandes à quelqu'un de t'aider un peu à te guider, là, justement quelqu'un d'un peu plus vieux qui ne l'a pas fait il y a trop longtemps là, pour te guider. Mais oui, il y aurait moyen de le faire tout à fait si tu respectes dans le fond, tes engagements puis tes contrats, si on appelle ça comme ça, avec le ministère, dans le fond. Mais je pense que oui, moi c'est ce que je fais. T'sais, moi, mon poste est ici, mais Villa Médica, c'est dans le RLS de Jeanne-Mance. Fait que, tu sais, moi, je change entre les deux, mais j'ai un quota de temps à respecter. Si je le respecte pas, je vais me faire taper ses doigts.
Puis, qu'est-ce que vous aimez le plus, en fait, de travailler dans une clinique en tant que telle, tu sais, versus les gros hôpitaux? Villa Maria, désolée, je viens pas de Montréal, mais est-ce que c'est un hôpital?
Oui, bien, c'est un hôpital de réadaptation.
OK.
Fait que c'est pas pareil. Fait que oui, il y a des gens, des patients qui sont hospitalisés. On a 146 lits. Fait que les patients restent là, puis ils sont hospitalisés là. Puis, dans le fond, tu sais, c'est pas des soins aigus, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de radio. Fait que, tu sais, par exemple, quand moi, on fait des gardes, les médecins, on s'alterne. C'est quand il y a un patient qui est instable, moi, j'ai pas de soins aigus, là, mes infirmières sont pas formées pour ça, il faut que je l'envoie à l'urgence. S'il est très essoufflé, puis je fais un ECG, puis je suis pas sûre s'il fait pas un événement coronarien, il faut que je l'envoie à l'urgence, là, c'est pour qu'il y ait vraiment les suivis. Fait que, dans cet hôpital-là, il faut que tu sois assez en santé pour être capable de faire 5 jours semaine de la physio puis de l'ergo intensive. C'est un peu ça le mandat de l'hôpital. Tandis que tous les autres hôpitaux de soins aigus que vous connaissez ou vous faites vos stages en général, c'est des soins aigus. Fait qu'ils sont hospitalisés dans un département. Fait que c'est un peu différent. Mais oui, c'est considéré comme un hôpital.
OK. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez de la clinique, en fait, ou d'un plus petit hôpital comme ça, qui est pas, c'est quoi le mode de vie un peu différent qui vient avec au jour le jour?
Bien, la clinique, tu sais, c'est le fun parce que t'arrives, puis tu sais, comme t'as un peu moulé ton horaire, tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'imprévus, tu sais, t'apprends avec le temps qu'est-ce que tu préfères, fait que tu sais, tu fais ton horaire, moi, je me laisse des petites plages d'urgence un peu dans mon horaire, comme ça, s'il y a des gens qui appellent ou il y a de mes patients qui vont pas bien, ou il y a quelque chose que moi, un imprévu, ben je prends pas du retard, j'aime pas ça être en retard, fait que là, je me suis habituée comme ça. C'est un peu plus, tu sais, c'est ça, c'est aux 15 minutes, le patient, puis là, tu connais, tu sais, puis ton dossier, c'est plus encadré. Tandis que dans l'hôpital, puis j'adore ça, tu sais, je suis pas sûre que si je faisais ça 5 jours semaine tout le temps, peut-être, je me tannerais peut-être, mais, fait que ce que j'aime, dans le fond, la dualité avec l'hôpital, puis les grands brûlés, c'est que tu bouges beaucoup plus à l'hôpital, t'es comme un peu toujours ça go, là, il y a toujours quelque chose qui se passe, les changements de pansement, la douche, un patient qui va pas bien, qui a mal, là, il y en a un qui doit être vu en physio, puis là, la physio veut que je vienne évaluer son genou avec elle, ou après ça, tu sais, je vois des patients en externe en parallèle, fait que c'est beaucoup plus occupé. C'est tout aussi gratifiant, je crois, mais c'est sûr que c'est différent. C'est pas le même beat du tout, du tout.
OK.
C'est quoi les côtés plus négatifs que vous trouvez dans votre pratique, autant en clinique que ton centre de réadaptation des grands brûlés?
Plus négatif.
Les défis ou les trucs que vous aimez moins.
Des barrières parfois que vous rencontrez que vous aimeriez qu'ils ne soient pas là.
Mais c'est surtout des barrières, je pense, en lien avec notre réseau de la santé. C'est plus les choses sur lesquelles je chiale, là, par exemple. Ouais. C'est plus sur le système. Puis, tu sais, on est un peu... il est vraiment pas parfait, puis on essaye, tu sais, mais tu sais, de se faire souvent dire, ben je suis sur la liste, puis j'ai pas de médecin, puis pourquoi j'ai pas de médecin, puis pourquoi c'est aussi long, puis les délais d'attente, fait que c'est un peu les délais organisationnels. Puis tu sais, à l'hôpital, on nous dit qu'on peut pas engager une physio de plus même si on est en manque parce qu'on n'a pas le budget. Il y a toujours une question de budget, toujours une question, puis c'est des choses que moi personnellement je trouve pas très tangibles. Tu sais, j'aime ça savoir quand il y a un bobo, c'est quoi le problème. Tu sais, on est comme ça en médecine, on aime ça avoir des choses tangibles. Moi, un budget, là, je trouve ça assez flou, là. Fait que vous savez que je fais pas de budget maintenant, tout le monde sait ça. Mais tu sais, un budget, comme ça veut dire quoi? Pourquoi moi, mon programme des grands brûlés, je peux pas avoir plus d'argent? Fait que là, tu sais, à qui je parle? Fait que là, il me dit, ben non, là, ça marchera pas de même. Bon, OK. Fait que tu sais, c'est un peu ça, plus le système qui est pas parfait, puis les gens qui, tu sais, des gens dans ton entourage, tu vas dans un truc de famille, puis ils disent, ben oui, c'est ça, on donne 52 % du budget en santé, puis on a tout pas de médecin de famille. Tu te dis, bon, tu sais. Fait qu'il y a un peu cette espèce de lassitude un peu de la population aussi envers le t'sais, le corps médical, puis oh, les médecins qui travaillent 3 jours. Je travaille pas 3 jours, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça.
Ouais, qui est pas toujours les stéréotypes un peu associés des fois qui sont plus ou moins...
positif, là.
Exact.
Exact, ouais. Mais on s'habitue, puis à un moment donné, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Il y a des choses que je contrôle pas du tout. Puis tu dis, ben, c'est ça. Moi, je fais ma job, est-ce que j'ai donné mon 100%? Je le fais peut-être pas tous les jours, mais j'essaie de le faire le plus possible, tu sais, puis c'est un peu ça.
Mm-hmm. Puis en parlant de votre entourage, tout ça, moi, je me demandais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous poser des questions, tu sais, quand vous êtes pas en dehors du travail? Parce qu'il me semble, quand tu es un spécialiste d'hôpitaux, tu sais, mettons un cardiologue, c'est facile de dire, ah, ben, moi, je fais pas ce système-là. T'sais, c'est plus facile d'avoir une excuse, mais comment vous réagissez avec ces gens-là? Les gens qui viennent vous poser des questions, est-ce que vous avez le droit de leur donner des conseils? Ou...
Oui, je crois que oui. Ben, c'est sûr que je rentre pas dans les détails. Là. Si c'est des trucs mineurs, je peux essayer de voir, mais je garde toujours une certaine distance en disant, ben, écoute, là, j'ai pas une idée globale ou une image globale de la situation. Des fois, il y a des gens que je leur offre des rendez-vous. Je me dis, ben tant qu'à être, faut être legit là, dans la vie. Fait que, tu sais, comme une fille que j'ai croisée au gym, elle m'a dit, j'aimerais ça faire changer mon stérilet. Je dis, ben écoute, je vais t'offrir un rendez-vous. J'ai des questions à te poser. Fait que j'ai ouvert un dossier, puis je l'ai fait. Je veux dire, yeah, écoute, je le fais des fois pour des trucs comme ça. Des urgences avec la famille, comme on vous dit, là, tu sais, mais je sais pas vraiment arriver. Puis, tu sais, faut juste que tu apprennes à dire, écoute, là, je travaille pas, là, tu sais, je peux-tu boire ma bière tranquille? Puis, tu sais, tu le dis en riant, puis ça passe souvent bien. Puis sinon, ben, tu essaies de dire, ben, je pense que c'est dangereux, tu devrais consulter. Tu sais, d'un peu faire un genre de petit screening rapide, c'est-tu dangereux, c'est pas dangereux. Tu regardes son grain de beauté, il est beau, tu réfères à la BCDE, tu dis, allez voir ça sur Internet, le mélanome, c'est dangereux, voilà, c'est tout. Tu
sais, moyen de la crème solaire.
Exact. De cadrer un peu ça, mais oui, mais tu sais, souvent, je trouve ça drôle. Je suis comme, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute.
C'est bon. C'est sûr qu'à longue, c'est ça. C'est difficile à gérer. Il faut apprendre à mettre nos limites.
Oui, en effet.
Puis moi, je suis un peu curieuse avec les grands brûlés. Mm-hmm. C'est quoi les... Mettons, ça a été quoi les avancements des dernières années là-dedans? Puis c'est quoi qui s'en vient dans ce milieu-là un peu, là, les grandes trouvailles scientifiques, mettons?
Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup... L'aspect chirurgical, ils mettent quand même beaucoup l'accent sur les nouveaux types de pansements, les nouveaux types de greffes. Je sais qu'à Montréal, on utilise encore les autogreffes. Fait que tu prends la peau, par exemple, de la cuisse pour aller couvrir une région brûlée. Il existe des nouveaux types de pansements tout le temps là, qu'on essaye d'essayer puis voir un peu comment améliorer un peu la guérison. Mais en réadaptation en soi, on essaie toujours de s'améliorer sur certaines techniques, par exemple... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des vêtements compressifs sur mesure pour les patients, qu'on change à toutes les 2 mois. Parce que dans le fond, une cicatrice d'une greffe de brûlure, si tu fais rien, ça a tendance à épaissir, à devenir plus raide. Mmh. Puis souvent, ça, si ça traverse une articulation, ça, vu que ça hypertrophie, on appelle ça une cicatrice hypertrophique, bien, ça va faire en sorte que ça va limiter le mouvement de l'amplitude articulaire. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on fait. Fait qu'on essaie de toujours s'améliorer avec les techniques, justement, des vêtements compressifs. C'est comme un legging, mais genre super serré sur mesure pour le patient. Fait qu'au début, ils ont de la misère, mais souvent, la majorité d'entre eux le tolèrent très bien pour essayer d'aplatir les cicatrices. Des nouveaux types de gels pour certaines cicatrices. Mmh. On met des gels, on met des moules, on met des orthèses. Fait qu'il y a tout un peu tout ça. Puis il y a toutes les avancées plus beaucoup récemment, je me suis rendu compte parce que j'ai assisté au American Burn Association au congrès l'année passée, il y a 2-3 mois. Puis il y a beaucoup tout ce qui est le non pharmaco pour la gestion de la douleur. Puis ça m'a fait un peu réfléchir à toutes les narcotiques, tout ça qu'on utilise. Puis là, moi, je suis en train d'implanter un projet justement à Villa Medica avec l'aromathérapie. Fait qu'il y a quelques études qui ont montré qu'avec des diffuseurs, puis il y avait 3 odeurs, genre rose, lavande, puis eucalyptus, qu'avec ça, lors d'un changement de pansement, vu que ça diminue l'anxiété, ça sent bon, c'est plus apaisant, ça diminuerait la douleur. Fait que là, je suis en train de faire mes recherches pour acheter les bonnes choses, puis moi, j'aime pas l'odeur de rose, fait que je vais avoir le droit de veto, c'est moi qui décide. Fait que je vais aller plus avec lavande ou eucalyptus, puis je vais faire une étude pour faire vraiment la gestion de la douleur, voir s'il y a un lien, puis essayer de faire quelque chose qui a de l'allure, pour faire une étude de la qualité, en fait, pour voir si ça fonctionne ou pas. C'est toujours un peu d'aller dans de l'avant. T'sais, oui, OK, c'est un petit peu une démarche supplémentaire. Puis ça rajoute, j'ai toujours des petits projets de même. Là, ça me rajoute au quotidien. Mais en bout de ligne, c'est tellement intéressant d'aller puis de sortir justement de l'aspect médical. T'sais, tu peux faire ta job puis dire, ben, je te prescris du dilodide parce que t'as mal. Tu veux dire, je vais me poser la question si je peux-tu faire autre chose. Y a-t-il quelque chose d'autre que je peux faire qui implique pas nécessairement un narcotique ou autre chose? Puis de toujours garder ton équipe un peu sur le qui-vive de genre, OK, j'ai un nouveau projet, la gang. Là, ils sont comme, OK, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous raconter, je vous explique mon projet, ma vision. Puis ça fait en sorte que ça motive le reste des troupes de trouver des nouvelles idées.
C'est sûr que ça prouve vraiment que comme l'équipe a de la passion là, quand il y a tout le temps des petits nouveaux projets.
Exactement.
Comme ça.
Ouais.
Puis si en parlant de gestion de la douleur, est-ce que c'est un problème parfois avec la population des grands poulets, la pression de narcotiques? Dans le sens qu'on le voit beaucoup, là, qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent addicts à la suite d'avoir été prescrits. Donc, c'est une réalité qui est quand même courante.
Bien, je suis comme un peu anti-narco, là, moi. Là, mais tu sais, on est comme anti-benzo parce qu'on s'est tellement fait dire pendant nos cours que les benzos, c'est pas bon, puis les narcos, faire attention. Puis ce qui est vraiment une excellente chose, parce qu'on dirait qu'on est comme vous et moi, tu sais. Bon, moi, j'ai terminé, pas depuis longtemps, mais avec la crise des opioïdes, c'est comme si ça... On s'est dit, ben là, il y a vraiment un problème. On publicise le problème tant au niveau médiatique, dans la population générale, mais aussi on a intégré cet enjeu-là dans nos cours. Ça fait en sorte que ça fait de nous des prescripteurs de ce genre de comprimés, de molécules-là, beaucoup plus frileux.
Mm-hmm.
Fait que je pense qu'on est comme un peu dans une autre génération par rapport à ça, fait que de toujours être alerte. Fait que souvent, moi, quand ils arrivent, ils viennent de sortir de la salle d'op, souvent pas longtemps après, quelques jours après, une semaine maximum, fait qu'ils ont beaucoup souvent de narcotiques. Mais c'est de un peu parler de ça, du sevrage, de dire, ben moi, vous allez partir d'ici, vous n'en aurez pas. C'est ça mon objectif. De le diminuer progressivement, puis de trouver justement des alternatives. Parce que c'est tellement facile de le laisser après pendant des mois, puis de le revoir, puis de continuer. Des fois, c'est pas facile de les arrêter. Des fois, j'arrive pas du tout. Mais je m'en veux pas souvent parce que j'essaye d'autres affaires. Je me dis, si j'ai tout essayé et ça ne marche pas, ben je vais aller demander la clinique de la douleur, je vais aller demander à un spécialiste justement de m'aider, voir s'il n'y a pas des choses auxquelles j'ai oublié. Mais la majorité du temps, j'y arrive quand même avec des alternatives, tant pharmaco que non pharmaco, de faire une meilleure gestion de la douleur sans narcotiques.
Ça prend juste un peu plus d'investissement puis de temps de la part du médecin.
Intéressant. Puis en termes de résultats globaux, là, quand quelqu'un sort de votre centre de réadaptation, est-ce qu'il y a beaucoup d'effets négatifs de la brûlure qui reste? Est-ce que les gens gagnent une bonne fonctionnalité pour leur vie après, en général?
C'est l'objectif. J'espère qu'on réussit. Ben, je pense que général, oui. Ben, tu sais, le processus cicatriciel, il dure environ en 12 et 18 mois. Fait que c'est pour ça qu'on les suit quand même longtemps. Puis c'est comme le moment crunchy là, pendant l'année et demie, de faire ça, de faire... On les accompagne dans la réinsertion. Tu sais, oui, on peut regarder microscopiquement la peau, mais après, si on se recule un peu puis on regarde macro, un grand brûlé, une victime de brûlure doit faire une réinsertion sociale, une réinsertion au travail, si c'est possible, de voir les alternatives. Quand c'est un accident de travail, bien ça implique de travailler avec la CSST. Quand c'est un accident de voiture, la SAC. Quand ils n'ont pas d'assurance, bien là, ça, c'est un tout autre paire de manches, de trouver des alternatives pour qu'ils soient bien, puis tu sais, quand même... qui est quand même un revenu, tout ça. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là aussi. Mais l'objectif, c'est de les rendre le plus fonctionnel possible. Mmh. C'est sûr que des grands, grands brûlés, il y en a. Puis il y en a qui répondent moins bien que d'autres à certaines de nos thérapies puis de nos traitements. Mais c'est l'objectif, c'est de les rendre le plus autonomes possible, vraiment.
Puis c'est motivant parce que les résultats sont quand même là.
Oui, ils sont là. Puis ça fait du bien de le voir. Puis tu sais... C'est sûr que c'est des cas lourds, mais quand à la fin, quand tu vois, my God, là, qui va avoir un bébé, par exemple, j'en ai un qui va avoir un bébé, puis qui est super content, puis ça va super bien avec sa blonde, puis il va bientôt retourner au travail, tu te dis, wow, OK, tu sais, j'ai quand même fait une différence dans la vie de ce jeune-là. T'sais. Oui, il y a des séquelles, mais si on était capable de faire ça, ça fait de moi que le soir, je dors bien sur les deux oreilles.
Mais sinon, est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants comme nous qui doivent faire un choix de carrière bientôt?
Ben honnêtement, je pense que tu le sais un peu ce que tu veux faire. Suivez votre cœur, vraiment. Tu sais, comme je pense que si tu penses que c'est ça que tu as besoin de faire, il y a souvent des points négatifs à tout, de faire un peu le pros and cons. Puis quand il y a plus de peau, puis c'est ça que ton cœur t'en dit, ben let's go, essaie-le, puis au pire, tu changeras. T'sais, oui, c'est pas facile de changer, mais si quelqu'un veut devenir neurochirurgien, finalement, décide de changer d'idée, c'est beaucoup plus facile que l'inverse. Un médecin de famille qui veut décider après de devenir neurochirurgien, ça, c'est plus compliqué, je pense. Mais si c'est ce que le cœur t'en dit, juste let's go. Puis faire le plus de stages possible dans ce que qui vous intéresse pour un peu le tester, t'sais, parce que si tu le testes pas, tu le sauras pas.
Mm-hmm.
Puis de parler avec les gens, justement, c'est quoi votre qualité de vie? T'sais? Moi, j'ai posé des questions, j'hésitais à médecine interne, tout ça, puis j'étais comme, non, ça m'intéresse pas, ce genre de qualité de vie-là, parce que c'est plus stressante, un peu moins malléable au niveau de l'horaire. Fait que j'ai décidé d'aller en médecine familiale, puis je suis tout à fait comblée, puis je regrette pas du tout mon choix.
Excellent. Contente d'entendre ça. Sinon, pour finir, avez-vous un organisme avec lequel vous travaillez que vous voulez glisser aux auditeurs?
Oui, bien en fait, je suis présidente du conseil d'administration d'Entraide Grand Brûlé, qui est l'organisme qui aide les Grands Brûlés, évidemment. J'ai les Grands Brûlés tatoués sur le cœur. Ouais. Justement, avec Entraide Grand Brûlé, on offre des services aux victimes de brûlures graves, aux survivants, puis aussi à la famille. On offre des services de psychothérapie, on offre justement du tatouage. On a un Grand Brûlé qui a eu un accident, puis c'est un tatoueur. Fait que après les cicatrices, quand mature, on fait le recouvrement de certaines cicatrices avec le tatoueur. On a plein de trucs comme ça. On offre de l'hébergement quand les familles viennent de loin, puis par exemple, il y a un rendez-vous au CHUM ou avec moi. Fait qu'on essaye un peu de les aider le plus possible pour après. Puis on a des événements, bon, avec la pandémie, on n'en a pas eu, mais c'est comme on fait un souper de Noël, un peu rassembleur, parce que c'est une très petite communauté. On n'entend pas beaucoup parler jusqu'à ce que ça nous arrive à nous, à notre entourage. C'est une réalité qu'on comprend moins. On n'en voit pas beaucoup dans la rue non plus parce qu'ils sont vraiment une faible minorité, ce qui est une bonne chose parce qu'on veut pas beaucoup que les gens subissent ce genre de traumatisme-là. Fait que juste d'avoir une certaine cohésion, puis c'est ce qu'Entraide Grand Brûlé vient un peu chapeauter. Fait qu'on a vraiment des beaux projets, puis si vous voulez donner, vous pouvez aller sur le site d'Entraide Grand Brûlé, ça va nous faire plaisir. Je suis allée faire une différence, ça peut être juste 25-30 $, ça va faire une différence en bout de ligne pour les survivants de brûlures.
Excellent. On va mettre le lien sous la vidéo.
Parfait.
Puis on a quelques cadeaux à vous offrir, donc je veux juste remercier les entreprises qui ont rendu ça possible. François Lambert, La Boîte à Vin et Botta Botta.
Génial, merci.
C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir venu avec nous. C'était super intéressant comme discussion. Ouais. Sinon, pour nos auditeurs, merci encore d'être avec nous pour un autre épisode. Et puis, on se revoit au prochain.
Merci beaucoup. Merci.